Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues.
Pour une fois, commençons par la fin. Le 15 février 1981, Mike Bloomfield est retrouvé mort dans une voiture dans une rue latérale de San Francisco. Il avait 37 ans. Quelqu'un, peut-être un dealer, l'avait laissé là, probablement pour ne pas être impliqué dans sa mort. Son corps n'a pas été réclamé à la morgue durant un certain temps. Et ce fut une fin particulièrement triste, mais prévisible, pour l'un des plus grands guitaristes de blues de tous les temps. Michael Bernard Bloomfield est né en juillet 1943 à Chicago. C'est là qu'il découvre le blues, le rhythm and blues et aussi le rockabilly. Grâce à la radio d'abord, puis en allant dans les clubs de blues des quartiers sud de Chicago. C'est là aussi qu'il reçoit sa première guitare à 13 ans, qu'il apprend à en jouer et monte très vite sur scène, devenant un guitariste, chanteur et compositeur précoce. En 1964, Mike Bloomfield est découvert grâce à son travail en studio avec Bob Dylan sur l'album Highway 61 Revisited. Il est découvert par John Hammond, qui le fait signer chez CBS. En 1965, il rejoint l'harmoniciste et compositeur Paul Butterfield, qu'il connaît parce qu'ils sont tous deux issus de Chicago, pour former un groupe de rock dont le son est basé sur le blues électrique urbain de leur ville d'origine. Ils font très vite sensation dans la communauté blues et permettent au public, notamment blanc, de découvrir une nouvelle facette du blues, notamment grâce à leurs deux premiers albums. Et la légende de Mike Bloomfield est en marche. Sauf que son parcours est tout sauf simple ou classique. Et c'est ce parcours si étonnant que je vais résumer aujourd'hui sur la période allant de 1964 à 1969. Mike Bloomfield est donc né et a grandi à Chicago, le paradis du blues électrique. Adolescent, il est devenu l'un des rares blancs à ne jamais rater une représentation de Sonny Boy Williamson, Little Walter, Otis Spann, Buddy Guy ou les grands du style comme Muddy Waters et Ole Wolf. Au fil du temps, ils vont même le laisser monter sur scène avec eux, étant l'un des rares chanceux à avoir joué avec ces légendes du blues de Chicago. Au milieu des années 60, Bob Dylan est devenu un fan inconditionnel et il en a fait l'ingrédient secret de sa conversion à la musique électrique. Ainsi, Mike participe à l'enregistrement de l'excellent album Highway 61 Revisited. Le moment où il se démarque le plus, c'est dans son travail sur Tombstone Blues, où il répond avec des éclats amers, féroces, avec sa Telecaster 63 au flow lyrique intense de Bob Dylan. L'incroyable était que, comme ce sera courant chez lui par la suite, Mike Bloomfield n'utilise jamais d'effets à part les commandes de volume et de tonalité de sa guitare. Et sa Telecaster était branchée directement sur son ampli, un Ampeg Jimini One. 4 jours avant l'enregistrement, Bob Dylan et Mike Bloomfield avaient provoqué un tumulte quand ils ont submergé les puristes folky du Newport Festival en jouant leur musique abrasive, principalement la version frénétique de Maggie's Farm, avec Mike Bloomfield jouant son jeu de guitare qualifié alors d'incendiaire. Voici Tombstone Blues, qui est pour moi le meilleur indicateur de ce que sera désormais le style de Mike.
Sweet pretty things on bed now, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Belle Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits a bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The king of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves and sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps with a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. The geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Once unwrapped the bedroll, tuba players now rehearse around the flagpole, and the national bank at a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane, that could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues.
C'était Tombstone Blues, le blues à la pierre tombale, par Bob Dylan avec Mike Bloomfield sur OxyWeb Radio. Le Paul Butterfield Blues Band a été l'un des premiers groupes américains à montrer que les Blancs pouvaient aussi jouer du blues. Il fut formé par Paul Butterfield, qui était au chant et à l'harmonica, Elvin Bishop à la guitare, Mark Naftelin au clavier, et la fameuse section rythmique composée de Sam Lay et Jerome Arnold, ex-membres du groupe de Howlin' Wolf. Ils étaient également l'un des premiers groupes racialement intégrés aux États-Unis. Leur son était du pur blues de Chicago, mais lorsque Mike Bloomfield a rejoint le groupe en tant que lead guitar au début de 1965, leur musique a gagné en punch musical. On devine aussi que Mike se sentait plus libre musicalement avec le Paul Butterfield Blues Band plutôt qu'avec l'exigeant voire rigoriste Bob Dylan. Ici, Mike Bloomfield pouvait jouer librement et donner tout ce qu'il avait dans la tête. Le Paul Butterfield Blues Band est le premier album de ce groupe sorti en 1965 sur Elektra Records. Il a culminé à la 123e place du palmarès des albums du Billboard. En 2012, l'album a été classé parmi les 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Dans la chanson Blues with a Feeling, nous pouvons trouver l'un des premiers et meilleurs exemples avec un ton et une technique absolument remarquables pour 1965 de ce que Mike Bloomfield savait déjà faire. En avance d'un an sur le légendaire Bino de John Mayall et Eric Clapton et de 3 ans sur le début du Fleetwood Mac de Peter Green. Vous pouvez ressentir l'interaction parfaite entre le guitariste et le chanteur joueur d'harmonica, le guitariste ajoutant de la colère à la complainte de Paul Butterfield au chant et à l'harmonica justement. C'est l'émotion émanant de Mike Bloomfield à la guitare qui frappe. Thank you.
closer. What a lonesome feeling when you're by yourself. Guess the one that you're loving has gone off with someone else. That's what I have today. I've got to find my baby, if it takes all night and day.
C'était Blues with a Feeling, le blues avec un sentiment, par le Paul Batafi Blues Band avec Mike Bloomfield sur OxyWeb Radio. À la fin de 1964, Joe Boyd, un aspirant producteur et ami du producteur du label Elektra, Paul Rothschild, lui a déclaré que le meilleur groupe du monde était sur scène dans un bar de blues à Chicago. Paul Rothschild alla les entendre et fut conquis. Dans un autre club, toujours sur le conseil de Joe Boyd, il a vu jouer Michael Bloomfield avec un groupe différent. Aussitôt, l'idée de les signer et de les faire jouer ensemble parut évidente aux deux hommes. East West est le deuxième album du Paul Butterfield Blues Band, sorti en 1966 sur Elektra Records. Il a été enregistré au célèbre Chess Studio au 2120 South Michigan Avenue à Chicago. Il va culminer à la 65e place du palmarès des albums pop Billboard, mais sera considéré comme très influent sur la musique électrique par les historiens de la musique rock et blues. Comme le premier album éponyme du groupe, The Paul Butterfield Blues Band, cet album présente des reprises du blues traditionnel et montre le travail de guitare de Mike Bloomfield et d'Elvin Bishop. Parmi les morceaux restés fameux pour comprendre le jeu de guitare de Mike Bloomfield, je peux citer « I Got a Mind to Give Up Living » où on peut ressentir l'énorme influence sur lui de B.B. King et Otis Rush, dans sa façon de jouer bien sûr, tout en gardant toujours cela complètement personnel. On parle aussi du morceau East-West long de 15 minutes, dans lequel beaucoup voient la source de ce qui donnera plus tard l'Allman Brothers Band ou encore le Grateful Dead, tant cette jam peut paraître d'avant-garde et située entre jazz et rock. Mais voici Walking Blues, le blues du marcheur, qui reste un standard du blues, écrit et enregistré par le musicien du Delta Blues, Son House, en 1930. Bien qu'inédit à l'époque, il faisait aussi partie du répertoire de Robert Johnson et Muddy Waters.
Woke up this morning, I looked round for my shoes. You know I had those mean old walking blues. Yeah. Woke up this morning, I looked round for my shoes. Well, I had those mean old walking blues. Some people tell me that worried blues ain't bad. It's the worst old feeling I ever had. Yeah. People tell me that worried blues ain't bad. Ocean runs to the sea. If I don't find my baby, don't bury me. Yeah. Went to the ocean and the ocean went to the sea. Yeah, if I don't find my baby, oh yeah, bury me. We'll be right back.
like days since my baby started low down ways. Yeah. Men seem like hours and hours seem like days. Since my baby started low down ways. I woke up this morning, people, I looked round for my shoes.
C'était Walking Blues par le Paul Patafield Blues Band avec Mike Bloomfield sur OxyWeb Radio. Depuis leur première rencontre, la personnalité rude et coriace de Paul Patafield impressionnait, voire écrasait Mike Bloomfield. Aussi, Mike ne resta pas avec eux après leur deuxième album. Ainsi, Mike Bloomfield est parti et a formé Electric Flag avec son copain Nick Gravenets au chant et divers instruments, et aussi avec le grand Buddy Miles à la batterie. Ils firent leur première apparition au Festival de Monterey en 1967, où Mike lança également la guitare la plus mythique de sa carrière, à savoir la Gibson Les Paul Standard 59. Pour l'Electric Fly, leur premier travail a été la musique du film The Trip avec Peter Fonda, qui était écrit par Jack Nicholson. Ensuite, l'Electric Fly a donc joué à Monterey Pop Festival, notamment en jouant leur version de Killing Floor de Howlin' Wolf, qui apparaît également sur leur premier véritable album, A Long Time Coming. Sur ce disque, la pièce commence par un extrait d'un discours de Lyndon Johnson, alors président des États-Unis, à propos du respect de la dignité de l'homme, qui se trouve suivi de rire. Puis l'épaule de Mike entre comme un tonnerre soutenu par quelques cuivres chargés de faire le riff. Puis Nick Gravenites se met à chanter tandis que Mike a la liberté totale de lancer des petits signaux avec juste sa guitare tout au long de la chanson. Et la fin délivre un pont instrumental assez jazzy avant de revenir à ce blues qu'ils ont rendu finalement complètement funky. À raison de différents problèmes, y compris l'incapacité de Mike à rester en phase avec les cuivres, l'Electric Flag a duré moins d'un an, ne produisant finalement qu'un album, A Long Time Coming. Pourtant, le groupe a influencé de nombreux autres musiciens, en particulier à San Francisco. Mais cela a également marqué le début de l'attrait de Mike pour la drogue la plus addictive, l'héroïne. Jusque-là, Mike se contentait de marijuana ou de LSD et il ne buvait pratiquement pas d'alcool. Dommage qu'il n'en soit pas tenu à ces substances relativement sûres, si on peut dire.
I speak tonight for the dignity of man and the destiny of man. A long time ago. Yes, I should have quit you, baby, a long time ago. You know I wouldn't be here now, people, down on the killing floor. If I'd have listened to my second mind. Yes, if I had listened my second mind. You know I wouldn't be here now, people, down on the killing floor. Mm-hmm.
Mexico with me. Yes, I should have gone on when my friend said come to Mexico with me. Well, you know I wouldn't be here now, people, down on the 10th floor. Yes, I said I quit you, babe, a long, long time ago. Yes, I should have quit you, babe, a long time ago. You know I wouldn't be here now, people, down on the killing floor.
C'était Killing Floor, un plan d'abattage par Electric Flag avec Mike Bloomfield sur OxyWeb Radio. Les influences musicales de Mike Bloomfield incluent Scotty Moore, le guitariste d'Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, les Trois Kings, B.B., Albert and Freddie, Big Joe Williams, Otis Rush et même Ray Charles. Mike Bloomfield utilisait à l'origine une Fender Telecaster, bien qu'il ait également utilisé une Fender Duosonic lors de l'enregistrement pour Columbia, après sa signature au contrat en 1964. Au cours de son mandat avec le Battlefield Blues Band, il a utilisé la Telecaster sur leur premier album et pour leur premier concert à l'automne 1965. En novembre, il avait troqué cette guitare contre la Gibson Les Paul Goldtop modèle 54 du guitariste John Hayes de l'International Submarine Band. Il va l'utiliser pour certaines des sessions du deuxième album East West. En 1967, Mike a échangé la Goldtop contre la Les Paul 1959 de son ami et musicien Dan Erlewine, ajoutant même $100 à l'échange. La Les Paul Standard 59 s'était révélée impopulaire à la fin des années 50 car elle était jugée trop lourde et trop chère par les guitaristes de rock'n'roll. Aussi, Gibson a cessé de la fabriquer en 1960. Mike Bloomfield a utilisé la Les Paul Standard 59 sur l'album d'Electric Flag et lors des sessions, des super sessions avec Al Kooper. Il est ensuite repassé de la Les Paul à la Telecaster, mais son utilisation de cette Les Paul a incité d'autres guitaristes à utiliser ce modèle et Gibson a réintroduit cette Les Paul Standard 59 dès 1968. Voici un exemple du son Gibson joué par Mike sur le morceau Texas, un blues teinté de soul écrit par Mike Bloomfield et Buddy Miles, où le batteur se met en évidence, même si on remarque aussi le jeu du guitariste, évidemment.
I just got in from Texas, babe. You told John Doe to back me, baby.
I'm gonna have to use my right. But I don't wanna do it, baby.
C'était Texas par l'Electric Flag avec Mike Bloomfield sur OxyWeb Radio. Mike Bloomfield a finalement perdu sa Gibson au Canada où elle servit de compensation auprès d'un propriétaire de club, Stan Grozina, après que Mike ait écourté une série d'apparitions et cela fut confirmé par les deux parties. Contrairement à ses contemporains tels que Jimi Hendrix ou Jeff Beck, Mike Bloomfield a rarement expérimenté le Larsen et la distorsion, préférant tirer un son fort mais propre, presque carillonnant, avec une bonne quantité de réverbération et de vibrato. Cette approche allait fortement influencer Jerry Garcia, le futur leader de Grateful Dead, qui est passé ainsi d'une carrière de guitariste acoustique à celle de rock électrique, au plus fort de l'influence du Patafi Blues Band en 1965. En mai 68, le claviériste Al Kooper a eu une idée. Il voulut enregistrer un album avec Mike qui mettrait l'accent sur ses capacités en tant que soliste. Bien sûr, Mike a accepté de jouer sur cette super session, comme on l'a appelé. Sa contribution à l'album, qui a été enregistrée en seulement 9 heures de studio, se résume à 5 morceaux, dont 3 écrits par lui-même et Al Kooper. Je vous ai déjà présenté ce fabuleux album dans Open Blues et à noter que Mike, sujet aux insomnies, se retrouva épuisé par les séances et dut arrêter, se faisant remplacer par Stephen Stills qui passait par là. Quand Super Session est sorti, Mike Bloomfield devint une rockstar. Malheureusement, Mike n'a jamais été attiré par ce statut et son comportement par la suite l'a prouvé. À noter l'apparition d'une sorte de rappel à Super Session avec un double album live que présenté par Mike et Al, intitulé justement The Live Adventure of Mike Bloomfield et Al Kooper, enregistré pendant 3 nuits au Fillmore East en septembre 1968. Je vous propose d'écouter le morceau qui lance l'album, Albert Shuffle, où Mike est en évidence.
Thank you.
C'était Albert Schaffel, littéralement le pas traînant d'Albert, mais qui pourrait être aussi la langueur ou bien le rythme lent tel qu'on le pratique en musique, par Al Kooper et Mike Bloomfield sur OxyWeb Radio. Mike Bloomfield est l'un des meilleurs guitaristes de l'histoire. Bien que son nom ne résonne pas autant que les autres, sa contribution est fondamentale lorsqu'il s'agit d'unir le blues et le rock, étant l'un des rares guitaristes blancs à pouvoir jouer avec ses maîtres dans les Duke Dumb de Chicago. De Jerry Garcia à Duane Allman, en passant par Carlos Santana ou encore Jimmy Page, ils sont nombreux à avouer son énorme influence. Aussi en 69, quand Mike réalise son premier album solo, It's Not Killing Me, Cela ne me tue pas, on est impatient à découvrir son travail vocal. Or, on en sera vite déçu. Et donc j'enchaîne avec un autre album réalisé avec son ami et son compère de longue date, Nicholas George Graham Knights, qui est né en octobre 1938 à Chicago. Il a vécu toutes les expériences de Michael Field dans tous les différents groupes, et y compris travailler avec Jenny Joplin. Mike Bloomfield en solo, puis plusieurs groupes et personnalités influentes de la génération issue des années 60 et 70 ont également travaillé avec lui. Jusqu'au décès de Mike Bloomfield, on peut considérer que sa carrière à Nick est étroitement associée à lui. Même si Mike connut une fin de vie pour le moins triste, Nick Drevenight a fait le maximum pour l'aider. Tout comme la fiancée de Mike, Christy Snave, qui échoua à le faire soigner. Et Nick Drevenight tournait encore récemment. Faute de temps, j'en viens directement au live au film de Bryl Graham à San Francisco, qui fait l'objet d'un double album dans lequel on trouve un certain nombre de morceaux d'Otis Rush et Willie Dixon, et notamment le titre Moon Tune que les fans de Mike vénèrent. Voici Killing My Love, Tuant Mon Amour, qui lance parfaitement l'album.
And if you succeed, love, it's gonna haunt you till your dying day. What you're doing is murder in the first degree. You don't dig your own self, why take it out on me? You're killing my love. Baby, well, I'll never see you again. You're killing my love, Lord, every way. And if you succeed, Lord, it's gonna haunt you till your dying day. Thank you.
you deserve, baby. Later on down the line, you'll kill my love.
C'était Killing My Love avec Nick Evnight et Mike Bloomfield sur OxyWeb Radio. Comme de nombreux musiciens du XXe siècle, Mike Bloomfield a succombé à la toxicomanie. À sa mort, de l'héroïne et de la cocaïne ont été trouvés dans son sang et le décès a été officiellement répertorié comme une surdose accidentelle de drogue. Il semble que Mike s'était égaré dans les années 60 et n'avait jamais retrouvé son chemin. Faible consolation, il a duré plus longtemps qu'Hendrix, Joplin ou encore Morrison, mais sa carrière fut compliquée et difficile à cerner pour beaucoup. À l'apogée de sa carrière, vers 1968, Mike Bloomfield fut peut-être le guitariste de blues le plus doué de son époque, aussi bon, voire meilleur que Lightning Hopkins, Harvey Mandel de Canned Heat, Johnny Winter, Muddy Waters, B.B. King, Albert King, Buddy Guy, Freddie King, John Lee Hooker, Eric Clapton, Jimi Hendrix, puisque tous l'ont plus ou moins reconnu. Pour conclure, voici un extrait de l'album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama de Johnny Joplin, dont Mike était l'ami, comme Nick Revnight d'ailleurs. Il l'aidait à monter son groupe, le Cosmic Blues Band, et c'est l'occasion d'apprécier pour une fois son jeu de slide, assez rare. À noter l'entente entre la chanteuse et les signaux de guitare envoyés par Mike. Un délice. Le titre What Good Man ne serait-ce pas un hommage à Mike, je vous le demande. La semaine prochaine, je vous parlerai de Duane Allman, en dehors de ce qu'il a fait au sein de l'Allman Brothers Band. Mais d'ici là, ben roulez blues!
Someone sincere. who treat me like it was one good man. Oh, honey, don't you know that I've been looking? Good man ain't much, honey, ain't much. Oh, it's only everything. Want to collect them in. They wear them like notches on a gun. Oh, honey, but I know better than that. I know that a woman